France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode ce matin de notre série consacrée à Frantz Fanon pour le 100e anniversaire de sa naissance. Notre question du jour posée à son œuvre est la suivante. Nation, région, panafricanisme, y a-t-il un peuple noir ? Fanon a démissionné en 1956, nous en avons parlé, de son poste de psychiatre à l'hôpital de Blida en Algérie. Il rejoint alors le FLN en exil à Tunis. Et de 1957 à 1960, au Maroc, il écrit plusieurs textes dans El Mujahid, l'organe de presse du FLN. Et à partir de 1958, Fanon participe à plusieurs conférences dites panafricaines qui se tiennent à Accra, capitale du Ghana, devenue indépendant en 1957, mais aussi à Tunis, à Conakry en Guinée, à Addis Abeba en Éthiopie. Je crois comprendre que Fanon n'utilise pas lui-même en général le mot panafricanisme, mais je vérifierai ce point avec mes invités de ce matin. En tout cas, à ses yeux, la révolution algérienne doit devenir l'avant-garde de la révolution de toute l'Afrique contre ses colonisateurs. Il voyage au Congo et au Cameroun où ses amis indépendantistes Félix Moumier et Patrice Lumumba sont tués respectivement en 1960 et 1961. De fait, ses engagements le mettent lui-même en danger. En 1959, le véhicule de Fanon saute sur une mine à la frontière algéro-marocaine. Il est blessé aux vertèbres. En 1960, devant se rendre de Morobia à Conakry puis à Bamako au Mali, il se méfie et renonce à emprunter le vol prévu d'Air France, dont il apprendra par la suite qu'il a été détourné vers Abidjan et fouillé par des militaires français. Mais quelle est la vision de Fanon exactement de la libération des colonisés ? Au moment où le leader égyptien Nasser développe de son côté un panarabisme, y a-t-il pour Fanon un lien indéfectible entre tous les damnés de la terre, comme il dit, arabes et noirs ? L'idée de nation est-elle à ses yeux une valeur ou bien un danger d'enfermement ? Et Fanon porte-t-il la même attention à certaines régions comme les Antilles, où il est né, qu'à l'Afrique ? Bonjour Myriam Cotias.
Bonjour.
Vous êtes historienne du fait colonial, spécialiste de l'esclavage dans l'espace caribéen, directrice de recherche au CNRS. Bonjour Norman Ajari.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, votre thèse portée sur Frantz Fanon. Aujourd'hui, vous êtes maître de conférence en études noires francophones à l'université d'Édimbourg en Écosse. Et pourquoi vous êtes un peu loin de nous, mais bien avec nous. Et bonjour Hamzat Boukhari Yabara.
Bonjour.
Vous êtes docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, historien, spécialiste notamment du panafricanisme, et vous avez beaucoup publié sur Fanon, vous aussi. Les travaux de mes trois invités ce matin sont précisés sur le site de l'émission. Écoutons d'emblée Frantz Fanon en 1956 au premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne. Vous allez entendre dans sa bouche des mots comme « libération totale du territoire national »,« lutte de conquête versus lutte de libération »,« fin du racisme » et aussi cette expression, l'universalité comme prise en charge du relativisme des cultures. On écoute.
Le corps à corps de l'indigène avec sa culture est une opération trop solennelle, trop abrupte pour tolérer une quelconque faille. Nul néologisme ne peut masquer la nouvelle évidence, la plonger dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national. Afin de réaliser cette libération, l'infériorisé met en jeu toutes ses ressources, toutes ses acquisitions, les anciennes et les nouvelles, les siennes et celles de l'occupant. La lutte est d'emblée totale, absolue. Les perspectives sont radicalement nouvelles, c'est l'opposition désormais classique des luttes de conquête et des luttes de libération. Les anciens immobiles, les lâches constitutionnels, les peureux, les infériorisés de toujours, s'arc-boutent et émergent hérissés. L'occupant ne comprend plus. La fin du racisme commence avec cette soudaine incompréhension. La culture spasmée et rigide de l'occupant, libérée, s'ouvre enfin à la culture du peuple devenu réellement frère. Les deux cultures peuvent alors s'affronter, s'enrichir. En conclusion, l'universalité réside, dans cette décision de prise en charge du relativisme réciproque de cultures différentes, une fois expu irréversiblement le statut colonial.
Toujours cette très belle plume, hein, quand il écrit et dit « la culture spasmée et rigide de l'occupant ». Et surtout, Hamzat Boukhari Yabara, ce qu'on entend, c'est que c'est peut-être cela qu'il appelle l'universalité. Il y aura un enrichissement mutuel après la libération de tout le monde, c'est-à-dire des colonisés comme des colonisateurs grâce à l'indépendance. Il vise un enrichissement mutuel de ces deux cultures. Vous entendez cela? Est-ce une... Il y croyait vraiment? Parce que l'histoire n'a pas montré les choses de manière aussi douce.
Ben, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que l'universalité est consubstantiellement opposée et contradictoire avec la colonisation et le colonialisme et avec la mission civilisatrice et l'idée justement d'universalisme tel que la France a pu le penser, le développer. Donc il pointe en fait toutes les contradictions de plusieurs siècles d'esclavage et de colonisation qui, au contraire, hiérarchisé les cultures, qui les ont niées, qui les ont écrasées, qui les ont fait disparaître, et qu'il ne peut pas y avoir, justement, de bonne décolonisation, de vraie décolonisation, comme le disait également Césaire, sans que la question du colonialisme soit totalement et fondamentalement éradiquée, et le racisme et le capitalisme qui lui est consubstantiel. Donc, il y a, je pense, une analyse qui est faite et en même temps, comme il le dit à un moment, des perspectives vers l'émergence d'une conscience nationale, d'une conscience historique de la part des colonisés qui veulent aussi donc entrer, enfin reprendre le contrôle de leur histoire et participer de cette manière-là à une décolonisation de l'universel.
Myriam Cotillas, bon, il parle du territoire national, on a l'impression que c'est une valeur, que c'est cela qu'il faut reconquérir pour ceux qui ont été occupés. Il parle d'universel qui n'empêchera pas un dialogue entre... Il parle quand même de relativisme réciproque des cultures. On a l'impression qu'il utilise des mots souvent opposés. La nation par rapport à l'internationalisme et en même temps il veut de l'internationalisme aussi. La question de l'universel, tout en reconnaissant le relativisme des cultures. Il emploie des mots opposés, il y a ce côté un peu oxymore chez lui. Mais qu'est-ce que vous entendez? Parce que c'est, il faut bien le reconnaître, c'est difficile à comprendre.
Moi, ce que j'entends précisément dans le passage que vous avez donné à écouter, c'est un modèle qui est très hegélien. En fait, c'est ce rapport entre un maître et un esclave dans le modèle hegélien et cette lutte qui va faire que finalement ils vont se nourrir l'un l'autre et tout en s'opposant. Dans la pensée de Fanon, il me semble qu'il y a beaucoup de contradictions. Enfin, il y a une urgence. Fanon écrit dans l'urgence.
Oui.
Dans l'urgence et dans la production d'un texte qui parfois, comme vous le signaliez, est un peu contradictoire. Moi, ce que j'entends sur l'universalisme, c'est bien sûr cette critique d'un universalisme d'aplomb, mais j'entends aussi ce que Souleymane Bachir Diane appelle l'universalisme latéral à la suite de Merleau-Ponty, c'est-à-dire un universalisme qui est capable d'intégrer des différences et finalement de faire corps commun. C'est ce que je crois comprendre dans la pensée de Fanon. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque.
Alors, Norman Ajari, cette idée que finalement, au bout du compte, Fanon serait hegélien, en référence donc à ce philosophe du 19e allemand Hegel, qui pensait que les contradictions se dépassaient dialectiquement. C'est quand même peut-être un peu difficile de conclure cela, lui qui a tant accusé d'autres d'être trop hegélien et de croire que les contradictions se dépassent trop facilement. Il a aussi eu un moment de refus d'un hegélianisme peut-être trop facile. Il ne croyait pas beaucoup à ce que Hegel appelait la reconnaissance. À la fin, le maître et l'esclave vont se reconnaître, la notion de Erkennung en allemand. Donc comment vous entendez le dernier Fanon, si je puis dire, Norman Ajari? Y aurait-il un retour chez lui d'une foi dans la dialectique et dans le dépassement des contradictions?
a toujours été un penseur dialectique. Penser dialectiquement, c'est pas...
Je suis désolée, Normand Jarry, on n'entend pas bien. Vous êtes dans ce qu'on appelle un reportite qui ne fonctionne pas toujours. Mais je pose cette même question à mes deux invités en studio. Hamzat Boukhari Yabara, qu'en pensez-vous? Le dépassement ultime des contradictions chez Fanon?
Fanon a évolué, il a été dans plusieurs situations. Là, on est sur le congrès des écrivains artistes noirs de la Sorbonne en 56. C'est le moment où il est en train de quitter l'Algérie. On est également dans une période de remise en cause de l'universalisme, justement hérité de la colonisation. La question de la libération culturelle est au devant de la scène pour les peuples africains. Le congrès de la Sorbonne, c'est un bandoum culturel. Donc il y a, je pense, une urgence à ce que la question de la culture soit mise au premier plan des questions politiques, d'une part. D'autre part, je pense que Fanon n'est pas dans des contradictions. Je pense qu'il a une trajectoire. Je pense qu'il a des ruptures. Et c'est ça, je pense, qui le rend très intéressant, parce qu'il pense à la fois la théorie et l'action. Et c'est un homme d'action. Et je pense que c'est peut-être cet élément-là qui fait que lorsque l'on s'arrête juste au Fanon théoricien, on reste dans une incompréhension de l'action qu'il a menée derrière. Donc il faut prendre Fanon dans sa totalité, à la fois l'homme de pensée et l'homme d'action. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut effectivement sortir des contradictions
théoriques. La praxis, voilà, qui résout les problèmes de la théorie. Vous êtes d'accord, Norman Ajari?
Oui, je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que penser dialectiquement, c'est pas nécessairement suivre de manière, scolaire la pensée de Hegel. Bien au contraire, la dialectique, comme vous le savez, c'est l'une des modalités fondamentales de la philosophie, même chez les Grecs et probablement auparavant. Donc Fanon élabore sa propre pensée dialectique. Une pensée où, effectivement, on cherche à surmonter les contradictions, y compris en admettant qu'il y a des éléments comme ça qui peuvent sembler paradoxaux, mais que parfois la force, si j'ose dire, c'est-à-dire dans l'histoire réelle ou bien parfois par la ruse, on peut les surmonter. Comme là, par exemple, il y a dans l'extrait que vous avez montré cette histoire de relativisme ou de relativité des cultures et d'autre part la dimension universelle, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'on doit reconnaître la finitude de sa propre culture et le fait que l'universalité, c'est pas quelque chose qu'on a, qu'on possède, qu'on habite, etc. C'est pas moi qui suis dans l'universel. Mmh. C'est en reconnaissant que ma culture a des limites, que celle de la personne qui me fait face a également ses limites, qu'on atteint l'universel. C'est pas il y a quelqu'un qui est dans l'universel, il y a quelqu'un qui ne l'est pas. C'est l'admission du fait que l'on est dans des rapports, dans des relations. C'est ça qui va faire l'universel. Et en plus, c'est quelque chose qui nécessite, pour que cette reconnaissance ou cette admission de nos cultures réciproques se fasse, eh bien parfois qu'on passe à l'action et que on milite, qu'on rentre dans la praxis, comme l'a très bien dit Hamzat.
Alors, il y a d'autres discours très universalistes qui parlent des relations, y compris Nord-Sud. Et je ne suis pas du tout sûre que Fanon les aurait cautionnés. Évidemment, c'est difficile d'imaginer la réaction de Fanon face à un discours que vous allez entendre et qui a eu lieu presque 20 ans après sa mort. Mais il s'agit du discours de Sangor en 1980, d'un propos tenu sur ce qu'on appelait à l'époque Antenne 2, en juin 1980, au micro de Jean-Pierre Cabache. Écoutez Sangor.
Le problème Nord-Sud ne sera pas résolu si nous ne faisons pas, si surtout les pays développés ne font pas une révolution culturelle. Actuellement, les pays développés ont un modèle qui est la société de consommation. C'est le contraire d'une société culturelle. Et c'est la raison pour laquelle on ne résoudra pas le problème. De leur côté, les pays du tiers-monde, depuis quelques années, préconisent un nouvel ordre économique international. J'ai dit plusieurs fois publiquement qu'il n'y aura pas de nouvel ordre économique international s'il n'y a d'abord un nouvel ordre culturel mondial. Et qu'il faut une convention entre la communauté économique européenne, où l'Europe occidentale se sera mieux l'Afrique et les pays arabes, en discutant ensemble, en échangeant non seulement des matières premières ou des techniques, mais en échangeant également des biens culturels, nous apprenons à nous connaître, à nous estimer, et c'est dans cette direction que nous pourrons résoudre nos problèmes économiques, parce que nous aurons résolu auparavant les problèmes culturels.
C'était donc Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, Norman Najari. C'est un secret pour personne. Senghor a suscité depuis les années 60, depuis qu'il a eu ce poste politique de premier plan, des critiques de ses anciens amis indépendantistes. Néanmoins, le propos que nous venons d'entendre, à lui seul, pourrait être cautionné par Fanon, d'après vous ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas, car je pense que, et c'est comme une caractéristique de la gouvernementalité de Senghor, le privilège qu'il accorde à la culture est aussi une manière d'effacer ou de minimiser l'importance des questions économiques, l'importance de la question de la lutte des classes. On l'a vu dans sa gestion en 1968 du mai 68, si j'ose dire, sénégalais, dans lequel il a brandi la négritude en disant, c'est ça son interprétation, c'est ce que Fanon déjà avait bien vu dans Peau noire, masque blanc, il l'avait entrevu, cette idée que la négritude, selon Senghor, ça voulait dire pour le noir, pour l'africain, reste à ta place, respecte les hiérarchies traditionnelles. Dans ta culture, il y a cette idée que c'est moi, le chef, qui décide, etc. Et il considérait, c'est ce que Senghor a dit, il a dit, vous faites la même chose que les Toubabs lorsque vous vous révoltez. Il a dit ça à son propre peuple. Ce sont les Toubabs qui se révoltent, les Toubabs de Paris, de la place de Paris, du quartier latin, et vous les imitez comme s'ils n'avaient pas leurs propres problèmes, comme s'ils n'avaient pas leurs propres soucis. Eh bien, je crois que cette manière de concevoir la culture, une culture africaine, stéréotypique, figé, compatible avec des hiérarchies rigides, ce n'est pas quelque chose à quoi Fanon aurait pu souscrire absolument pas.
Est-ce que vous pensez qu'au fond, Fanon était plus sincèrement internationaliste que Senghor, qui a géré une nation au bout d'un moment, avec l'autorité qu'il a jugé nécessaire de joindre à son mode de gouvernement, qui a été fortement critiqué il y a de quoi. Mais est-ce que vous pensez que sur le fond, là je parle des concepts, de la philosophie de ces deux hommes, Fanon est bien plus internationaliste que Senghor ?
Oui, je le crois. Je le crois pour la simple raison que l'internationalisme de Fanon s'est manifesté non pas seulement dans, une manière de prôner certaines actions culturelles, une manière de prôner une unité des mondes noirs par la musique, par le chant, par la littérature, mais dans son action à titre d'ambassadeur du FLN, notamment au Ghana, il a porté ce message panafricain, c'est-à-dire l'idée d'une unité politique et économique de l'Afrique, comme tentative de sortir des ornières, eh bien, dans lesquelles, par exemple, quelqu'un comme Senghor nous avait mis, en enfermant l'Afrique dans le projet d'union gaulliste, c'est-à-dire une forme de néocolonialisme, avec une monnaie comme le CFA qui bridait le développement de l'Afrique, des monocultures, c'est-à-dire des pays, africains, qui étaient emprisonnés dans leur culture héritée de la colonisation et qui les empêchaient de devenir autonomes, de s'autodéterminer en termes économique et en termes de commerce. Bref, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour penser un internationalisme, cette dimension économique et cette dimension géopolitique que Senghor avait négligé, ou en tout cas qu'il avait prôné, mais dans un rapport extrêmement compatible avec les intérêts de l'ancien colon.
Alors, l'internationalisme de Fanon pose beaucoup de questions, notamment la manière dont il va faire le lien entre tout un tas de nations et aussi entre l'Afrique et les Caraïbes. On va en parler bien évidemment, je vais vous entendre j'espère assez longuement là-dessus, Myriam Cotias. Mais puisqu'on est sur le problème de la nation, il y a un texte extrêmement intéressant de Fanon qui est extrait de « Cette Afrique à venir », un texte de 1960 qui a ensuite été reproduit dans un volume en 1964 pour la Révolution africaine. Et dans ce texte, il y a une vraie inquiétude de Fanon à propos du fait que décoloniser les peuples soit sans idéologie autre que celle de la nation. Et ça l'inquiète, on écoute.
Le colonialisme et ses dérivés ne constituent pas, à vrai dire, les ennemis actuels de l'Afrique. À brève échéance, ce continent sera libéré. Pour ma part, plus je pénètre les cultures et les cercles politiques, plus la certitude s'impose à moi que le grand danger qui menace l'Afrique est l'absence d'idéologie. En Afrique, par contre, les pays qui accèdent à l'indépendance sont aussi instables que leur neuve bourgeoisie ou leur prince rénové. Après quelques pas hésitants dans l'arène internationale, les bourgeoisies nationales ne sentant plus la menace de la puissance coloniale traditionnelle, se découvrent soudain de grands appétits. Et comme elles n'ont pas encore la pratique politique, elles entendent mener cette affaire comme leur négoce. Prébande, menace, voire littéralement dépouillement de la victime. Tout cela est évidemment regrettable, car les petits États n'ont d'autres ressources que de supplier l'ancienne métropole de demeurer encore un peu. Également, dans ces pseudo-États impérialistes, une politique militariste à outrance entraîne la diminution des investissements publics dans des pays encore par endroits moyenâgeux. Les ouvriers mécontents subissent une répression aussi impitoyable que celle des périodes coloniales. Syndicats et partis politiques d'opposition sont confinés dans une quasi-clandestinité. Le peuple qui avait tout donné aux heures difficiles de la lutte de libération nationale s'interroge, mains et ventres vides, sur le degré de réalité de sa victoire. Depuis près de 3 ans, j'essaie de faire sortir la fumeuse idée d'unité africaine des marasmes subjectivistes, voire carrément fantasmatiques, de la majorité de ses supporters. L'unité africaine est un principe à partir duquel on se propose de réaliser les États-Unis d'Afrique, sans passer par la phase nationale, chauvine, bourgeoise, avec son cortège de guerre et de deuil.
Hamzat Boukhari Yabara, vous êtes spécialiste de la notion de panafricaniste. C'est un texte panafricaniste ?
Absolument, absolument.
Pourquoi refuse-t-il le mot alors ? Enfin, non, si j'ai bien compris, hein, peut-être que c'est inexact et qu'il l'a employé, mais on dit beaucoup qu'il n'employait jamais le mot. Alors je voulais vérifier avec le spécialiste que vous êtes.
Alors tout simplement parce que le panafricanisme est né dans la diaspora et que là Fanon est en Afrique et que la traduction du panafricanisme sur le continent africain, c'est l'unité africaine, tout simplement. Le panafricanisme, c'est la question du retour en Afrique, c'est la question de la lutte contre le racisme que l'on subit à l'extérieur de l'Afrique. Et donc ce sont des questions qui, lorsqu'on est en Afrique, ne se posent pas. La question du retour qu'on est en Afrique, elle ne se pose pas. Donc la traduction maintenant de ce mouvement de libération, c'est celle de l'unité africaine que pose clairement Fanon, en faisant constamment des liens avec ce qui se passe également dans la Caraïbe, en France, un peu aux États-Unis. Donc c'est un texte qui est fondamentalement panafricain, qui cible effectivement l'absence d'idéologie. Donc cette idéologie doit être le panafricanisme. Et l'absence de cette idéologie produit ce qui est en fait la description de cet extrait, c'est-à-dire le néocolonialisme. Et donc le fait qu'on va avoir des dirigeants issus des processus de décolonisation qui dans bien des cas ont été sélectionnés pour leur rejet de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on a éliminé les indépendantistes et on a mis au pouvoir des dirigeants qui ne souhaitaient rien faire de l'indépendance, qui poursuivent cette relation coloniale et qui d'une certaine manière épousent finalement les schémas de la domination, reproduisent les schémas de la domination de manière invisible, ils ne sentent plus la menace de la puissance extérieure, etc. Et je pense que dans ce texte-là, il y a énormément de choses à lire. Ce qu'il pointe va être repris, par exemple, par Amilcar Cabral, qui parlera du suicide de classe et donc la nécessité pour les élites et les bourgeoisies, en fait, de renoncer à leurs privilèges pour se fondre avec les intérêts du peuple et produire une véritable décolonisation. La question également de la construction de l'État-nation, qui n'est pas adaptée aux États africains. Il faut plutôt parler de nation-État. Donc c'est à partir de la question de la nation que se construit l'État. Or, la quasi-totalité des États africains vont reproduire ce modèle européen de l'État-nation, qui passe par des répressions, qui passe par des partis uniques, qui passe par un copier-coller, finalement, du modèle européen, ce que Fanon jugeait absolument inutile. Il disait très clairement que l'Europe ne peut pas être notre modèle et on ne peut pas penser la construction de l'unité africaine sur un copier-coller de la construction de l'Europe.
Alors, on va discuter, mais pour cela, je crois qu'il faut qu'on ait tous les éléments de la pensée de Fanon. Parce qu'en même temps, Fanon refuse l'idée d'une unité qui assoupirait, ferait que la diversité s'assoupirait. Il refuse de penser que la peau noire, par exemple, produit une unité de fait et de droit d'ailleurs. C'est-à-dire que, en fait, dans l'histoire, il y a un grand peuple noir qui effacerait les différences régionales, les différences nationales, les différences culturelles à l'intérieur même des noirs. Donc, je voudrais, avant de discuter avec vous de vos lectures de cette difficulté, on est encore dans quelque chose qui peut apparaître un peu contradictoire, donc j'ai vraiment besoin de vos lumières. Je vous propose d'écouter un autre texte de Fanon, antillais et africain, paru dans Esprit en 1955, dans la revue Esprit, et reproduit lui aussi dans le volume de 1964 pour la Révolution africaine.
Nous voudrions faire remarquer que cette histoire de nègre est une sale histoire. Une histoire à vous soulever l'estomac. Une histoire en face de laquelle on se trouve totalement démuni si on accepte les prémices des salauds. Et quand je dis que l'expression « peuple noir » est une entité, j'indique par là que les influences culturelles exclues, il ne reste plus rien. Il y a autant de différences entre un Antillais et un Dakarien qu'entre un Brésilien et un Madrilène. Ce qu'on cherche en englobant tous les nègres sous le terme « peuple noir », c'est à leur enlever toute possibilité d'expression individuelle. Ce qu'on cherche ainsi, c'est à les mettre dans l'obligation de répondre à l'idée qu'on se fait d'eux. Que serait le peuple blanc ? Ne voit-on donc pas qu'il ne peut y avoir qu'une race blanche ? Faut-il donc que j'explique la différence qui existe entre nation, peuple, patrie, communauté ? Quand on dit « peuple noir », on suppose systématiquement que tous les Noirs sont d'accord sur certaines choses, qu'il existe entre eux un principe de communion. La vérité est qu'il n'y a rien, a priori, qui puisse laisser supposer l'existence d'un peuple noir. Qu'il y ait un peuple africain, je le crois. Qu'il y ait un peuple antillais, je le crois. Mais quand on me parle de ce peuple noir, j'essaie de comprendre. Alors malheureusement, je comprends qu'il y a là une source de conflit. Alors, j'essaie de détruire cette source.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de Frantz Fanon cette semaine et ce matin, nous posons les problèmes de sa conception de la nation, des régions, du panafricanisme, de l'unité éventuelle d'un peuple noir ou au contraire de sa critique de cette notion. Le texte que nous venons d'entendre est plutôt critique. Je suis en compagnie de Norman Ajari, Hamzat Boukhari Yabara et Myriam Kotias. Myriam Kotias, vous connaissez très bien la Caraïbe, c'est votre objet de travail. Ce texte de Fanon, vous l'entendez comme une critique ferme de l'idée d'un peuple noir ? Y a-t-il cependant un peuple africain ? Que fait-il des Antilles ? Je vous laisse carte blanche pour nous déployer ce problème difficile.
Que fait-il des Antilles ? En effet, dans ce texte-là, il y a quelques paradoxes historiques. Vous parliez tout à l'heure des différences. Il y a des différences historiques aussi qu'il faut prendre en compte, et notamment la question de l'esclavage, qui est constitutive vraiment des sociétés antillaises, et qui est le soubassement de la construction des sociétés antillaises. Or, Fanon ne travaille pas beaucoup cette question-là, et dans ce texte antillais et africain, il ne travaille pas non plus les hiérarchies raciales qui se sont construites progressivement à cause de cette histoire de l'esclavage. Donc quand il dit peuple antillais, peuple africain, au centre, et pour moi en tant qu'historienne de l'esclavage, il y a cette expérience de l'esclavage qui est très différente. Et il y a aussi cette position de Fanon disant que finalement, dans les Antilles, avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de relation raciale, d'opposition raciale tenace. Justement, entre les colons et puis la population, le reste. Ce qu'il dit, c'est on a toujours réussi à s'arranger. C'est-à-dire que, et là, finalement, il est un peu dans la position de Senghor qui dit... entre le colonisateur et le colonisé, on est dans un autre cadre, bien sûr, qui est celui de l'Afrique, mais entre le colonisateur, il y a eu une relation d'amour qui s'est créée, c'est-à-dire une relation qui est faite à la fois de négociation, d'opposition.
Mais franchement, on va pas te raconter d'histoire. Ouais. Il les critique très fortement pour avoir cherché cette espèce de
bien
paix.
Bien sûr. Mais ce que je voulais souligner...
Parfois, c'est en coulisses dans cette série, mais j'ai beaucoup entendu toute la semaine des invités ici nous dire ensuite, un peu dans le couloir de la Radio France, franchement, Fanon et les Antilles, il n'a pas été tendre avec ce lieu où pourtant il est né.
Il a été distant. Et il a été distant,
pourquoi
y compris dans sa pensée, y compris dans son premier livre « Peau noire et masque blanc », il y a un rejet des Antilles pour des raisons...
Rejet ?
Oui. Alors, si vous voulez, Alice Cherki, dans son ouvrage, parle de l'aspect... des éléments culturels que Fanon va garder des Antilles. Et elle parle de la Biguine particulièrement, mais sur le plan politique, il y a un rejet des Antilles.
Pourquoi ?
Du fait de la position d'Aimé Césaire qui va choisir la départementalisation, qui va pas être dans une radicalité révolutionnaire, et que Fanon va lui reprocher. Les Antilles sont dans un modèle qui est celui de l'adhésion à une république française, auquel d'ailleurs Fanon va adhérer dans un premier temps quand il va partir en dissidence lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais par la suite, son expérience algérienne va faire qu'il va consacrer la pureté révolutionnaire, c'est-à-dire la radicalité de l'opposition aux colonisateurs et à la colonisation. Il va le localiser en Algérie. C'est-à-dire, c'est son expérience de cette radicalité. Tandis que, aux Antilles, il considère que il y a eu une sorte de négociation peu glorieuse, avec la République. Fanon va à la fois, à mon sens, rejeter les Antilles pour cette raison-là, et dans le même temps, va être rejeté par les Antilles. Écoutez, il y a pas de cercle fanonien avant les années 1976. Fanon est pas connu aux Antilles, et sa pensée ne va être analysée qu'à partir du moment où la relation des Antilles, c'est-à-dire des départements français d'Amérique avec la métropole, vont être interrogés. C'est-à-dire que la promesse républicaine d'égalité, elle a totalement échoué, disons-le comme ça. Et dans cette reconsidération de la relation avec la métropole, avec la restauration aussi et l'élaboration d'idées indépendantistes, la pensée de Fanon va être réappropriée dans les Antilles.
Est-ce que je peux encore enfoncer le clou sur ce sujet avant qu'on ait une discussion sur pourquoi est-ce que la peau noire, je vous interrogerai là-dessus, Norma Najari, puisque vous avez écrit un livre, Noirceur, qui crée, semble-t-il, quand même une unité très profonde entre les Noirs du monde entier. Mais donc, je voudrais enfoncer le clou sur les Antilles. Fanon est critiqué, Myriam Cotillas, pour avoir notamment, violemment, reproché des choses à une écrivaine antillaise qui s'appelle Mayotte Capétia, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, qui a écrit en 1948 un livre « Je suis martiniquaise ». Plus tard, elle a écrit « La négresse blanche ». Je n'ai pas tout compris, je vous le dis franchement. Expliquez quel est le problème avec cette personne, la femme antillaise, les Antillais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés à déplier à l'intérieur de cette polémique avec Mayotte Capétia.
Qui est polémique, pas tout à fait. Ah. Pas tout à fait, parce qu'il y a une adhésion de à la critique de Fanon par un certain nombre dans les mouvements politiques. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai commencé à travailler sur Mayotte Capétia, je vais vous le dire, et c'est que Fanon dit dans le chapitre 2 de Peau noire, masque blanc, toutes ces femmes de couleur, échevelées, vos rêves d'une nuit d'amour avec un blanc. Ce qui est une condamnation. Et une condamnation qui fait écho à la fois aux textes des coloniaux, c'est-à-dire les premiers voyageurs qui disent « la femme, c'est un repoussoir, c'est un repoussoir ». Cette condamnation de la femme noire va être perlée tout au long de l'histoire des Antilles, jusqu'au moment et jusqu'à la période des mouvements indépendantistes, où les indépendantistes disaient « la femme, c'est le point faible du mouvement indépendantiste parce qu'elle est susceptible de trahir la race », voulant dire « c'est elle qui va aller vers un homme blanc ». Voilà, donc ça c'est le point de départ, parce que la pensée de libération nationale a souvent été très très genrée et a été aussi une pensée très très masculine. Enfin, il y a eu des mouvements en Afrique de femmes, mais bon.
Il y a eu des mouvements afroféministes et très importants aux États-Unis.
Oui, mais qui justement, ce sont ces mouvements afroféministes qui sont revenus sur la question de Mayotte Capétia et qui ont dénoncé la position de Fanon et sa condamnation de cette femme venant du Carbet, petit village pauvre de la Martinique, quasiment illettrée, qui va avoir un parcours assez extraordinaire puisque elle part de la campagne martiniquaise pour arriver à Saint-Germain-des-Prés, écrire un roman Je suis martiniquaise, que Fanon va prendre.
Après une liaison avec un officier.
Avec un officier.
En 1942.
Voilà, qui va être pétainiste.
Oui.
Et d'ailleurs, ce moment de bascule, c'est-à-dire ce moment où les officiers pétainistes arrivent en Martinique et le moment de bascule dans le texte antillais et africain où le racisme et la distance en tout cas par rapport à la métropole coloniale c'est un basculement tout à coup, c'est-à-dire Fanon, dans un premier temps, dit il n'y avait pas franchement de racisme entre nous, on négociait nos relations. La période de la guerre arrive, les officiers français blancs, hommes blancs, sont en Martinique, et là, tout à coup, ils accaparent à la fois toutes les richesses, et y compris les femmes considérées comme des richesses, et là, ça ancre une différence de relation avec une distance, en tout cas.
Alors, Norman Najari, comment réagissez-vous à ce problème, parce qu'il y a un problème, les Noirs des Antilles, les Noirs d'Afrique, est-ce que Fanon a fait la différence? On pourrait introduire la question des femmes aussi, on vient de le faire. Vous êtes l'auteur, en 2022, aux éditions Divergence, d'un livre qui s'appelle Noirceur, race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine, américaine au XXIe siècle, également du manifeste afro-décolonial, Le rêve oublié de la politique radicale noire au seuil en 2024. Eh bien, je vous écoute.
Alors, il me faut tout de même préciser que la critique de l'aliénation que produit Fanon dans Peau noire, masque blanc n'est pas uniquement dirigée contre les femmes noires, puisqu'il y a également un chapitre où, de manière symétrique, il s'attaque à René Maran, écrivain noir, exactement sur les mêmes sujets, à savoir son appétence et son espèce de divination de la femme blanche. Et il est d'ailleurs, à mon sens, plus cruel et plus brutal avec René Maran et avec le personnage principal de son ouvrage, à savoir Jean Veneuse, puisqu'il va jusqu'à dire que c'est l'homme à abattre. Ce qui est, comment dire, évidemment, dans la rhétorique guerrière de Fanon, une phrase à prendre au sérieux. Donc, je pense que cette critique de l'aliénation, cette critique de nos fascinations morbides pour la blancheur, n'est pas une critique misogyne, mais c'est une critique qui, comment dire, marche sur deux jambes et qui concerne tous les genres, malheureusement, qui concerne simplement la structure mentale qui est celle des populations noires héritées du colonialisme sous toutes ses formes. Et c'est peut-être d'une certaine façon ça qui constitue ou qui est une phase ou une étape pour la prise de conscience de l'unité du monde noir. Unité qui n'est absolument pas donnée, que Fanon ne considère pas comme simplement le résultat, ce serait très superficiel, enfin, du fait que nous avons à peu près les mêmes couleurs, ni même comme la négritude l'avait supposé, surtout dans sa version par Senghor, qu'il y aurait une sorte de strate subtile, identique dans toutes les versions des différentes cultures noires, mais c'est plutôt, là encore, c'est de la dialectique, quoi, par la prise en compte du fait que nous sommes tous d'une certaine façon déshumanisés, que nous provenons de populations qui ont été amoindries, qui ont été considérées comme inférieures, qui ont été soumises à cette aliénation, à des formes d'exploitation bien spécifiques, et que c'est à partir de ça, c'est ça qui peut constituer le marchepied pour une unité, donc pas une unité donnée, mais une unité par une prise de conscience du fait que nous avons des situations communes. Et ça, juste pour terminer, en revenant un petit peu sur le texte antillais et africain,
s'il vous plaît,
c'est un texte qui provient d'une expérience assez intéressante qu'avait fait Fanon dans les rangs de l'armée de la France libre, quand il débarque en Afrique du Nord, déjà, premier voyage en Afrique du Nord, et on voit les différences de traitement entre les Antillais et les Africains, qui étaient même marqués par leurs uniformes différents, puisque les Antillais portaient des uniformes français, là où les Africains portaient des uniformes coloniaux, ceux que on trouve dans nos livres d'histoire, avec des chapeaux pseudo-traditionnels, etc. Et voyez comment la différence était non seulement une différence de traitement, mais qu'elle était marquée, fabriquée par l'ordre colonial qui fabriquait ce type de hiérarchie. Et ce type de hiérarchie que Fanon cherchait à briser, non pas au nom d'une espèce d'unité biologique fondamentale, ni même unité culturelle fondamentale, mais au nom d'un intérêt politique commun, celui de la lutte contre l'impérialisme et le racisme.
Et vous, Norman Ajari, vous avez fait votre thèse sur Fanon. Votre nom est parfois associé à ce qu'on appelle l'afropessimisme. Alors, premièrement, j'aimerais bien que vous nous définissiez cette notion et que vous nous disiez où vous en êtes avec ça. Est-ce que vous êtes afropessimiste ou non? On peut évoluer et puis peut-être que votre position est plus complexe. Et du coup, quel est aujourd'hui votre rapport à Fanon?
C'est beaucoup de questions.
Oui, mais vous voyez, pour que le débat...
Je vais essayer de faire le plus vite possible.
Soit aigu, j'aime bien qu'on aille au fond du problème, là. Et je crois que votre position permet d'aller au fond, peut-être, de désaccord avec Fanon. On a le droit aussi, même dans une série qui le consacre, sa pensée est majeure, de réfléchir au débat qu'il a suscité.
Oui, bien sûr. Alors, afropessimisme, il y a deux... acceptions consacrées dans la littérature. La première, qui n'est pas celle dont nous parlons aujourd'hui, c'est, disons, la notion que l'Afrique, à cause de sa culture particulière et de ses traditions, est inapte à l'économie de marché, au libéralisme politique. C'est comme ça, traditionnellement, qu'on considère l'afropessimisme. C'est une thèse en sciences politiques qui me semble assez raciste. Un journaliste comme Stephen Smith, par exemple, a apporté cette théorie. Ce n'est pas celle qui nous occupe, l'afropessimisme sur lequel j'ai travaillé, auquel j'ai consacré un livre, donc le livre Noirceur, c'est l'idée selon laquelle les sociétés à majorité blanche ne peuvent pas, de par elles-mêmes, se réformer de telle sorte à ce qu'elles acceptent l'humanité des Noirs. Et bien, que c'est seulement une, comment dire, sous la pression, par exemple, d'organisations politiques noires, sous la pression internationale de pays à majorité noire, que la négrophobie, la détestation et le mépris des populations noires pourra être résorbée, que c'est en somme une affaire de rapport de force. Alors, j'ai consacré un livre à cette thèse qui est portée par des auteurs africains-américains, parce que ce n'était pas du tout connu en France. Moi-même, est-ce que j'y adhère ? Disons que j'adhère à certains éléments. Si vous allez voir dans le détail, il y a des choses un petit peu délirantes, des choses un petit peu farfelues, certains excès rhétoriques que personnellement j'aime bien, mais je pense pas que ce soit forcément vrai, on va dire ça comme ça. Ce serait trop long de rentrer là-dessus, donc les gens que ça intéresse peuvent aller voir le bouquin. Et en ce qui concerne, l'héritage de Fanon...
Oui.
Moi, je considère que l'héritage de Fanon est très intéressant parce que c'est un héritage contrasté. Et lorsqu'on veut traverser le temps, je pense que c'est ce que Fanon a su faire, c'est qu'il a toujours mêlé sa critique, au moins dans la dernière partie de sa vie, disons sur son rapport à Mayotte Capetia, à Jean Veneuse, etc., à René Maran, on peut sans doute trouver des choses à redire, mais dans la fin de sa vie, quand il est devenu plus politique, quand il a eu une expérience militante, il a mêlé la critique de la société, la critique du colonialisme, à l'autocritique. Il y a ce texte célèbre sur les mésaventures de la conscience nationale, où il prédisait déjà certaines déviations qui allaient être celles de l'histoire du FLN algérien, certaines formes d'autoritarisme, certaines formes de chauvinisme. Il l'avait bien vu. Et il s'incluait là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas une espèce de critique de surplomb, mais une critique en tant que militant de la propre organisation à laquelle il a voué sa vie et pour laquelle il a risqué son existence. Et donc, la capacité à l'autocritique, la capacité à, essayer de voir ses forces et ses faiblesses, je pense que c'est ça qui permet de durer dans le temps, c'est ça qui permet de mesurer la fécondité d'une pensée.
Entendu.
Et aujourd'hui, quand on lit ça, on voit qu'il a eu raison sur certains points.
Entendu, mais quand il dit, comme nous l'avons entendu, c'est notre premier extrait sonore aujourd'hui, que la culture de l'ancien colonisateur et la culture du colonisé libéré vont pouvoir s'enrichir mutuellement. J'ai l'impression que votre sensibilité qui suggère qu'il ne se passera jamais rien de cette sorte entre les blancs et les noirs, que la noirceur crée un gouffre et que le salut pour, si j'ose dire, enfin, de manière tout à fait non religieuse, pour les noirs est de travailler entre eux et contre l'oppression blanche. J'ai l'impression que sur ce point, vous avez un désaccord majeur avec Fanon. Je me trompe ?
Non, pas du tout, parce que précisément, il parle de la culture. Et c'est peut-être le seul endroit où ça s'est vraiment fait, si vous voulez. C'est le seul endroit où dans le jazz, il y a cet enrichissement réciproque de la culture, dans le hip-hop, dans l'électro, dans le rap. Enfin, c'est la culture, le lieu où on peut dire qu'il y a vraiment eu un enrichissement réciproque des cultures. On peut vraiment dire que, les différentes formes de culture noire ont essaimé à travers le monde et de telle sorte que c'est vraiment un lieu où les emprunts culturels, il y a toujours des critique de l'appropriation culturelle, et parfois à bon droit, mais c'est quand même un lieu où on peut dire qu'il y a des formes d'hybridité qui ont eu beaucoup de succès et qui ont créé les formes de musique populaire les plus influentes, les plus merveilleuses de l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Donc sur le plan de la culture, s'il y a bien un lieu où il y a eu un enrichissement réciproque, je pense que c'est paradoxalement celui-là. Mais c'est vrai que sur le plan de la traduction politique en termes de victoire et d'émancipation des peuples, c'est peut-être là que ça n'a pas véritablement marché.
Hamzat Boukhari Yabara, comment vous réagissez à ce débat difficile? Il faut faire aussi attention aux mots. Il y a quelque chose de dialectique, vous l'avez dit, chez Fanon. Il y a des positions plus dures, mais comme on vient de l'entendre, Norman Hajjari suggère aussi que de l'hybridité est possible, alors que souvent on vous prête, Norman Hajjari, une position plus dure que vous venez là, à l'instant, de démentir. C'est difficile, tout cela. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là-dessus? On arrive presque au bout de l'émission, Hamzat Boukhari Yabara.
Mais déjà, je voudrais rappeler Fanon était quand même indépendantiste. Il a quand même influencé les mouvements des années 60. Il le dit dans son article sur « Le sang coule aux Antilles sous domination française ». Nous savons maintenant que les Guadeloupéens les Martiniquais, les Guyanais seront indépendants et construiront leur pays respectif comme ils l'entendent. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'inscrit clairement dans une revendication de l'indépendance au niveau des Antilles. Il le fait à l'époque aussi dans le contexte de la révolution cubaine. Sur le texte également, je pense qu'il faut quand même nuancer, parce que comme l'a rappelé dans Managari, il y a bien ce passage, hein, les influences culturelles exclues. Et je pense que si on exclut les influences culturelles, effectivement, la question du peuple noir est problématique, parce qu'il s'inscrit justement dans ces influences culturelles. On a également, je pense, un décalage entre la pensée noire américaine et la pensée française, qui ignore totalement la question noire, puisque ça, ce sont des débats qui datent en fait du début du XXe siècle autour de Du Bois, autour du pan-négrisme et du panafricanisme, et comment en fait on débarrasse la question raciale de la problématique de la libération politique, et qu'on passe en fait à ce mouvement qui va être le panafricanisme, qui inclut effectivement une dimension continentale et qui pose la question du peuple africain ou du peuple antillais dans le sens d'une communauté de destin. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est comment construire une communauté de destin en tenant compte précisément des héritages, des trajectoires, des solidarités historiques. Je pense qu'il y a également dans cette approche autour de la race un prélude en fait à la critique de l'antiracisme moral et de l'idée voilà que le racisme ce serait juste des questions de couleur de peau. En fait, il va un peu plus loin que la question de l'épiderme et montre que le racisme n'est pas une question de couleur mais véritablement une question de pouvoir, et que c'est dans ce contexte-là que des mouvements comme les Black Panthers avec Malcolm X mettront en avant la nécessité d'un pouvoir noir qui soit en capacité justement de poser cette question de l'exploitation économique, du capitalisme et du racisme. Donc je pense qu'il y a...
Alors on va juste laisser Myriam Cotia, s'il nous reste une minute.
Beaucoup d'éléments dans ce passage-là qu'il
Merci
faudrait vraiment creuser.
Pour tous ces éléments, et je vous laisse le dernier mot, Myriam Cotia. Vous dites ce que vous voulez sur ce débat ample et complexe que nous venons un peu d'avoir.
Et écoutez, et passionnant aussi, on va le dire. Écoutez, non, la question du pouvoir et de la déconstruction des pouvoirs, des rapports de domination, pour moi, elle est absolument centrale. Que ça soit d'ailleurs dans la culture aussi, parce que ces rapports de pouvoir sont bien à l'œuvre, ou que ça soit dans les questions, la question du racisme également. Je vais prendre Fanon quand il dit, et je voudrais le croire quand il dit qu'on va dépasser la question de la race et qu'on va arriver à cet universel possible qui rend les communications et aussi des relations, qui créent des relations de pouvoir beaucoup plus à égalité. C'est un combat, mais c'est le combat qui est toujours à mener.
Colo mentality. I say you fit in, never release yourself. Colon mentality.
If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release me yourself.
If it's so, them they do, them they overdo all the things that them they do.
If
it's so, them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do.
If
it's so, them they do, them they think. They better pass them, brother. Not be so.
It
be so. It be so. Them they do. Them they think it's them. They better pass them, brother. Not be so.
It be so.
The thing with black no good. Now foreign things them they like. Not be so.
It be so.
The thing with black no good. Now foreign things them they like. Not be so.
It be so.
Them go turn your condition and close them country away. Not be so.
It be so.
Vous entendez Fela Kuti. C'est une chanson de 1976, Colonial Mentality. Fela Kuti est un chanteur du Nigeria très critique de la corruption et de l'autoritarisme des élites au Nigeria. Merci beaucoup Norman Ajari, Hamzad Boukhari, Yabara et Myriam Kotias. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la proportion et à la disproportion. Voici le pourquoi du comment.
Comment se situer entre deux infinis ? La question de la mesure de l'usage de la raison que les humains utilisent pour se repérer dans le monde, pour amener l'infinie diversité du monde à des repères communs, à des mesures communes, à ce qu'on appelle la commensurabilité, c'est-à-dire le fait de ramener le divers à une seule et même mesure, par opposition à quoi il y a de l'incommensurable, de l'infini, mais de l'infini mesuré par écart, justement, avec la mesure. Cet outil de la mesure n'est pas seulement un outil technique pour se repérer dans l'univers. Ce n'est pas seulement cette rationalité instrumentale que Heidegger avait critiquée, sur laquelle il avait ironisé, cette ratio qui servirait avec le compas à maîtriser le monde par opposition à une pensée qui chercherait à le dépasser sur le mode d'une question infinie. Non, pour les humains, se situer dans le monde à travers la question du fini et de l'infini, de mesurable et de l'incommensurable, du proportionné et du disproportionné, c'est se situer lui-même dans le monde. Évidemment, Blaise Pascal l'avait bien compris dans les pensées quand il avait situé l'homme entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Cette terreur du disproportionné, dans la plus petite chose, dans la plus petite molécule, je vois de l'infini à l'infini et à l'infini. Et puis, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. L'être humain est situé entre deux infinis et sa raison consiste aussi à percevoir ses propres limites. Mais ce n'est peut-être pas là l'essentiel. En réalité, la source ultime de repérage entre les humains, la raison profonde pour laquelle la sagesse antique avait tout misé sur la limite, sur la proportion et sur la mesure, c'est d'abord une question morale et politique. C'est par rapport au mauvais infini des désirs humains, au désir insatiable, à l'avidité sans limite et à la haine sans fin d'un côté, mais aussi à cette vertu sans limite, à cette bonté infinie qui fait qu'on peut se sacrifier soi-même et vouloir sacrifier l'univers aussi en raison d'une seule injustice, comme Ivan Karamazov qui préfère détruire l'univers plutôt que de laisser mourir un enfant innocent. C'est ce sens de la disproportion dans la justice elle-même, cette exigence absolue de justice. Oui, plutôt tout détruire que laisser cet enfant innocent être torturé. C'est cette disproportion de morale absolue de nos désirs de justice ou de nos passions injustes et de notre haine qui nous amène à nous situer entre deux infinis. Alors il faut admettre qu'il y a un infini du mal et un infini du bien, et que la proportion de justice qui règle les différends entre les humains, qui permet de dire « oui, cet acte-là, il a été trop loin, il a été disproportionné, il doit donc être puni lui-même, il doit donc être rétabli, la justice doit être équilibre, doit être une balance », oui, cet simple usage de la proportion entre les humains nous situe peut-être moins entre les deux infinis pascaliens, mathématiques, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, mais plutôt entre l'infini abyssal de la vengeance et de la guerre qui se reproduit sans fin tant qu'on n'y met pas en effet cet équilibre de la proportion, de la justice, de cet équilibre qui doit être institué, fondé sur des règles et non pas seulement sur l'arbitraire ou sur le sentiment humain d'un côté pour permettre, pour encourager aussi le dépassement de la règle du côté du bien et pour lutter contre son dépassement destructeur. Du côté du bien, oui, on peut faire un peu plus que la justice proportionnée. Oui, il y aura toujours un peu plus de bien. Oui, je te donnerai un peu plus que ce que je te dois, mais parce que je te donnerai au moins ce que je te dois et je n'entrerai pas dans la vengeance infinie, dans le refus infini de ce que je veux t'arracher par la force.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Chaïma Giboire, Axel Dubois, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.